transmission now. Morée.
Live.
En vacances.
Oui, monsieur.
Live.
Radio. X.
En vacances, beaucoup. On n'est pas les seuls en vacances. Ça paraît sur les routes. Si je regarde la circulation, ça va bien un peu partout, sauf sur Capitale. Je dirais direction ouest, direction Montréal, quand vous arrivez à la hauteur de Pierre-Bertrand, des galeries également. Il y a deux accrochages à cette hauteur-là. Un à la hauteur de, je vous dirais vraiment, du boulevard des galeries, là, quand vous passez justement à côté des grues Armanguet. Et l'autre, qui est à la hauteur de Robert Bourassa. Donc, c'est sûr que pour les gens qui partent de Beauport, Charlebourg, Capitale devient problématique ce matin, mais c'est à peu près le seul endroit où on voit de la couleur sur la carte à l'heure actuelle. On vous souhaite de passer un excellent début de semaine. C'est lundi aujourd'hui. L'équipe de Montréal Live est composée de l'excellent Maxime Lacasse.
Je suis présent.
François Garriépy également.
Oui, je parie que je suis pas pire aussi.
On est avec vous jusqu'à 10h, puis là, on parle avec Jérôme Blanchet-Gravel. Comment ça va, Jérôme?
Salut Dan, ça va très bien toi?
Hey, ça va très bien, merci Jérôme. Il y a tellement de choses à dire, mais quel genre de société qui passe une fin de semaine à pleurer sous le sort des artistes qui ont moins de talent puis qui veulent du cash pour pouvoir passer la journée à arroser leurs fleurs?
C'est une commande politique, hein, d'après moi, du lobby artistique proche des élections provinciales. Le journaliste qui a reçu ça et qui a exécuté ça, une tâche un peu ingrate. C'est un peu ridicule. Hein? Il n'y a personne, finalement, qui embarque dans ça. Les gens réagissent assez mal. On se moque, finalement, beaucoup plus des artistes qu'on les plaint. Donc, c'est un peu pitoyable parce que, d'abord, il n'y a pas de hiérarchie de souffrance dans le monde, là, mm-hmm. mais il y a encore des gens enterrés sous des décombres au Venezuela. Nous, on fait, finalement, un portrait. Les pauvres artistes, Dan, qui sont contraints de déménager dans une grande maison en Gaspésie pour vivre de leur ail. Oui. Il y a des perles là-dedans. Sur le plan journalistique, écoutez, on est vraiment devant... C'est une parodie, là. Donc, il y a notamment une autrice, notamment, parce que vous avez vu, c'est le portrait de plusieurs artistes qu'on fait, qui a été forcée de s'exiler en Gaspésie. La pauvre quitte Montréal pour devoir côtoyer des chômeurs et des pêcheurs non LGBT. Et qui est pauvre, elle a la vue sur la mer. On ne sait pas exactement elle est située où. Mais c'est donc bien triste d'être artiste au Québec, devoir emménager dans une grande maison en Gaspésie. Quel châtiment, quelle punition qu'on réserve comme société méchante et égoïste à nos artistes. Et personne n'est contre l'art, hein, on se fait dire ça sur Facebook. Vous êtes contre l'art.
Contre la culture.
Contre la culture aussi. Voilà, c'est ça. Effectivement, le discours au Québec, c'est d'abord la culture, parce que ces gens-là, évidemment, sans eux, notre culture va mourir.
Voilà.
C'est eux qui portent ça sur leurs épaules, le fardeau de faire survivre le Québec français. C'est extrêmement prétentieux, d'abord. C'est le discours qu'a développé cette caste-là, finalement. C'est Louis Morissette, à tout le monde en parle, qui débarque sur le plateau et qui dit, sans aucune gêne, « Faut continuer à nous donner de l'argent, sinon le Québec français va mourir. » Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est prétentieux, là. Donc, sans ces gens-là, le Québec ne peut pas survivre culturellement.
Mm-hmm.
Donc, c'est une industrie, hein. L'identité, c'est censé être sacré. La culture d'un peuple, c'est censé être sacré. Mais non, nous, on en a fait au Québec une industrie subventionnée. Donc, ça traduit aussi tout le rapport, tant qu'à moi, dénaturé à la culture. La culture vivante qui est censée être organique, c'est censé pousser par soi-même la culture. Mm. Mais nous, au Québec, on pense que la culture, ça va de pair avec l'État. Et sans État, il n'y a plus de culture. Et c'est une erreur, en fait, qu'on fait là.
L'exemple que je fais souvent, puis on va revenir sur le sujet des artistes, là, mais je suis allé aux Pays-Bas, ça ne fait pas longtemps, là. Je suis allé aux Pays-Bas il y a 3 semaines à peu près. Et je trouve que le comparatif est excellent parce que voici un pays qui a une langue unique, qu'aucun autre pays parle, et qui sont entourés d'un monde très, très anglophone. Tu sais, ça peut se comparer au Québec en matière de langue, mais eux autres, ils ont transformé leur langue en mousse au chocolat. en disant vous êtes chanceux de pouvoir la parler, vous êtes privilégiés, vous êtes des Européens d'une classe supérieure parce qu'en plus, vous parlez cette langue-là. T'sais, on l'a vraiment vendu de cette façon-là. Ils sont fiers de parler néerlandais. Là. Tu rentres dans un commerce, tout le monde parle néerlandais, puis ils servent de bord, ils parlent anglais. Ils ont toute une deuxième langue qui est l'anglais, mais au lieu de l'obliger, ils l'ont juste encouragé en disant c'est de la mousse au chocolat, cette langue-là, ça vous rend plus hot de parler, de conserver cette langue-là comparativement aux autres. Puis tabarnouche, la culture, elle vit par le peuple et non pas par des règles, tandis qu'ici, on l'a transformé en brocoli, en légumes verts. T'es obligé de parler français. On lui a enlevé tout l'aspect sexy de la patente.
Oui, c'est ça. Puis oui, effectivement, il y a quelque chose de spontané, forcément, dans une culture. Et si c'est plus spontané, d'aucune sorte, ben c'est parce que c'est mort. Si on entretient, s'il faut entretenir artificiellement avec des subventions, des règles, une culture, c'est que cette culture-là est potentiellement morte. C'est triste, mais... Et un exemple que je donne dans mon autre livre, 12 propositions pour un Québec vivant avec Claude Simard, qu'on a publié récemment aux éditions Libère de l'année passée.
Oui.
T'sais, les Afro-Américains n'ont jamais eu besoin de subventions de l'État américain pour inventer le jazz, là, t'sais, et le blues. T'sais, on peut pousser la réflexion plus loin, là, c'est-à-dire la culture ne naît pas nécessairement non plus dans des milieux ultra-aseptisés, t'sais, cocher des cases. Écoutez, on est devant maintenant des artistes qui sont des spécialistes des formulaires de subvention. Là. Donc, tu sais, une des premières qualités requises aujourd'hui pour être artiste au Québec, c'est pas nécessairement d'être bon et d'avoir un public, un vrai, mais d'être capable de cocher des cases sur des formulaires gouvernementaux. Puis cette culture-là subventionnée, elle est pleine de critères idéologiques. Je sais pas si vous réalisez. Par exemple, vous êtes éditeur, vous publiez des livres, et vous devez vous soumettre à tout un ensemble de règles, là, c'est-à-dire là, vous devez publier un certain nombre d'auteurs autochtones, si vous voulez des subventions, vous devez faire la promotion de la diversité. Donc en plus, ça fait une culture qui est idéologique, là, qui est paramétrée, qui est normée, standardisée, donc ça n'a rien d'organique. Puis c'est pour ça que ça pogne pas, c'est-à-dire les gens sont pas cons, là, ils savent bien qu'ils sont devant des produits culturels qui en plus veulent leur imposer des messages qui sont idéologiques. Netflix en est plein aussi. Aux États-Unis, on n'a pas besoin de subventions pour verser dans l'idéologie nécessairement. T'sais, l'industrie de la culture, on sait, Hollywood est assez woke en général. Mais il y a ça en plus. Fait que les gens, ils en sont conscients. Ils ne veulent pas se faire moraliser non plus par un gouvernement qui impose une culture qui est idéologique puis qui est standardisée selon des critères bureaucratiques, là.
C'est hallucinant, puis on revient aux acteurs que, t'sais, sans nécessairement répéter ce qu'on a dit, qui insultent le monde qui ont des vrais jobs, là, en disant j'ai été obligé de me rabaisser à aller travailler dans une usine. C'est insultant pour le monde à qui tu demandes de te donner de l'argent. Puis le gouvernement devient toujours un peu la solution aussi. C'est dans notre culture beaucoup.
Oui, la culture de la dépendance étatique. C'est très maladroit, tant qu'à moi, comme opération de communication, parce que c'en est une, là. C'est pas innocent, cette affaire-là. Il y a des artistes qui se sont dit qu'il faut élaborer une stratégie pour aller réclamer de l'argent auprès du gouvernement. Ça arrive, des fois, les médias font ça. Là, quand Montpellado sort des médias, là, les médias... regardez, c'est toujours le même discours. Sans Québécois, le Québec va s'effondrer culturellement. Sans les artistes, le Québec va s'effondrer culturellement. On va toujours s'effondrer culturellement si on siphonne pas encore plus les contribuables. De toute façon, les budgets sont plus là. Actuellement, désolé, on peut pas se permettre actuellement, devant l'effondrement des institutions au Québec, de subventionner encore Safia Nolin et compagnie. Là. Puis je veux, tu sais, on ne peut pas rentrer dans les critères subjectifs nécessairement. C'est-à-dire, bon, tout le monde a ses goûts en matière de culture, là, mais vous comprenez, hein, je pense qu'on n'a plus ce budget-là. Ça ne devrait pas faire partie des priorités non plus que de subventionner des œuvres, entre guillemets, qui ne vont pas plaire de toute façon à tout le monde. De toute façon, le propre de la culture, bon, c'est pas de plaire à tout le monde non plus. Vous comprenez l'idée, là.
Je pense
que le Québec, actuellement, il y a d'autres priorités budgétaires aussi. Là.
Voilà.
Fait que c'est très maladroit. D'après moi, c'est une campagne de promotion qui est contre-productive de la part de nos chers artistes.
Parlant de promotion, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on fait, parce que quand tu rencontres des Micheline puis des Francine, c'est le sujet vient rapidement quand même. Les médias qui font la job là, pour qu'on ait peur de la température en nous parlant d'Europe.
Ah oui.
Non, mais
ça me fait barrer.
Moi aussi, ça devient un sujet de conversation. Voyons, Francine, pourquoi tu me parles de la température en France? Sans sac, là, on est au Québec. Là.
Les Québécois sont impressionnants. Là, cette semaine, apparemment, une canicule, enfin. Écoute, faisait moins 40 encore il y a deux semaines, quasiment. Tu sais, la canicule au Québec, c'est juste la température sous laquelle vivent des milliards de personnes chaque jour en passant.
Oui.
Il y a quatre semaines de chaleur. Il y a quatre semaines de chaleur par année, Dan, au Québec. Là. Pas plus que ça. Là.
Je sais.
Et là, ces thermopompes à côté, les gens partent tout leur appareil de réfrigération de la maison.
Mais on s'ostine contre la clim, là.
C'est piquant de s'endurer, hein. Franchement, c'est un univers ultra aseptisé. Donc, ça prend tout l'appareil. Puis, ça a été les moustiques aussi récemment. Je ne sais pas si tu as vu. Prévention aussi des écureuils dans sa cour. Québécois a consacré quand même un dossier à ça. Comment, finalement, repousser les méchants écureuils. C'est tout le bestiaire. Hashtag le bestiaire sur Facebook. Tous ces animaux, hein, finalement, dont on parle. Au Québec, dans les médias, les grands enjeux, hein, la rage aussi du raton laveur.
Oui.
Qui est apparu avec des faces incroyables. Là, il y a même un recours à l'IA chez Radio-Canada avec des ratons avec des faces de rage.
Oui, de lion.
C'est vraiment n'importe quoi.
Une dentition dessinée.
Pour la chaleur. C'est vrai, t'es allé. Dan, il y avait la canicule, tu...
Oui, j'ai eu une journée de canicule par place. Je suis allé dans quatre villes. Dans quatre villes, la première journée que je suis arrivé, c'est une journée complètement caniculaire où le monde disait... Où je voyais des Européens dire, des Belges, entre autres, on n'est pas habitué à 40 degrés ici, mais qui étaient quand même en jeans et en chemise à manches longues.
Oui, les Européens sont moins short. Hein,
oui, ils sont beaucoup moins short.
On est beaucoup moins. Même à Mexico, je les ai souvent dit, quand les gens venaient me visiter, ils disaient, mettez pas des shorts, ça fait trop touriste. Au Mexique, en fait, le short est très rare. Mais bref, écoute, c'est vrai, c'est très, très chaud l'Europe. Moi, j'évite de plus en plus, effectivement, juillet-août pour ces raisons-là, parce que ça peut être très chaud. Puis ça remonte à il y a 10 ans déjà, en passant. Là, je me rappelle,
j'étais à Bordeaux. C'est à 2003, Toulouse. La grosse canicule, là, Jérôme. C'est 20 ans, là. Ça fait 20 ans que l'Europe est rendue.
Ben oui, c'est ça. Écoutez, j'étais dans la vingtaine, puis on crevait en France, dans le sud. Puis c'est vrai, c'est très, très chaud. Mais en même temps, on s'adapte, puis... Là, vous avez vu le gouvernement français en profite pour faire du sanitarisme, proscrire l'alcool. C'est un peu pathétique parce que l'État français, finalement, ne contrôle plus rien. On l'a vu récemment avec le meurtre d'un jeune handicapé, quand même, qui a été battu à mort par 4 ou 5 jeunes issus d'immigration.
Louis. Oui.
Donc, ça va très, très mal. Les
selfies, évidemment,
l'insurrection là, après le match de foot, vous vous rappelez. Donc, c'est un État qui contrôle plus rien en France, mais qui fait semblant qu'il a encore le contrôle sur quelque chose. Fait qu'au lieu de s'en prendre aux gens qui foutent vraiment la merde et qui sont vraiment problématiques, on s'en prend aux citoyens qui prennent une bière sur le bord du quai sur la Seine. Donc, on s'attaque aux petits problèmes, on fait de la micro-gestion en se faisant croire qu'on a encore le contrôle sur quelque chose. Hein, c'est faible, comme l'expression consacrée en France, c'est fort avec les faibles. Non, faible avec les forts et fort avec les faibles.
Donc, en France, si tu commets un gros crime, qui ça se peut que tu t'en sortes assez bien, mais paye ton métro, man. Paye ton métro,
puis prends pas trop de bière sur le bord de la Seine ces temps-ci. Donc, c'est du contrôle social, encore une fois. Puis c'est vrai, les vagues de chaleur, bon, évidemment, pour les personnes âgées, ça reste, il faut surveiller ça. Mais il faut pas virer fou, puis à chaque fois... On infantilise la population. Hein. Le gouvernement français s'adresse aux citoyens comme à des enfants, comme la CAQ durant la COVID. Donc, avec des codes de couleur, il y a des codes, donc des zones qui sont rouges, des zones. On a ressorti de tout l'éventail, là, vous avez des codes couleur COVID, en quelque sorte. Donc, là, en zone rouge canicule, pas d'alcool. Donc, c'est très, très infantilisant. C'est vraiment c'est du gardiennage étatique, là.
Je te remercie infiniment. Bonnes vacances, man. Je sais que cet été, tu peux t'en profiter pour prendre des vacances, la famille, tout ça. Profite-en.
Un peu, ouais.
Passe un bel été, puis on se reparle, Jérôme, s'il y a quoi que ce soit. Je te remercie infiniment de nous avoir parlé ce matin.
Un grand plaisir. Puis faites un tour sur Libre Média, libretraditionmedia.com. Vous allez voir, il y a quand même toujours des contenus qui... sont publiés encore.
Toujours, c'est fascinant, c'est le fun. Puis de toute façon, les gens qui sont abonnés aux médias sociaux, qui lisent la technique d'avoir le premier paragraphe de l'article, puis après ça, il faut que tu t'abonnes, je trouve ça parfait. Parce que tu veux toujours savoir la suite, Jérôme. On veut toujours savoir la suite.
C'est un peu agace.
Oui, c'est très agace, mais tu dis quoi, c'est le même, ça marche. Merci infiniment de nous avoir parlé, passez une belle semaine.
Merci, bonne semaine. Salut, bye.
Bye. Jérôme Blanchet-Gravel à qui on parlait. C'est fou parce qu'effectivement, on est en train de régler le problème caniculaire de l'Europe. Pareil comme ça se passait ici. Vous rendez-vous compte que la couverture est pareille comme si c'était des feux de forêt en Abitibi? Là?
On ouvre les bulletins météo ici au Canada, au Québec, avec à Bordeaux, il fait chaud.
Oui.
Je dis, ouais, mais là, moi, je
m'entorchonne un peu.
C'est super à Bordeaux, là.
C'est super beau. Sais-tu quoi? Ils mettent de la glace dans le vin. C'est parfait. Ils s'arrangent avec ça, eux autres. C'est merveilleux. Par contre, man, tu sais, le karma. Il y avait un Ironman qui était présenté hier à Nice. Il fait chaud, là.
Il y en avait un à Québec aussi.
Oui, oui, je comprends, mais Québec, c'est moins... c'est la température idéale pour Ironman. Là, il fait 43 degrés, là. C'est ce qui est marqué sur le thermomètre. 43 degrés, un tannis. Ça fait que les organisateurs, ils se font dire par la santé publique, pas d'Ironman. Là, les gars, les Niçois sont là, puis autour de leur salade, en se disant, tabarnouche, je fais quoi? Hein? J'ai du monde de partout dans le monde. Là. C'est un gros Ironman qu'on a. Il y a du monde du Brésil, il y a du monde des États-Unis, il y a des Canadiens, il y a du monde qui viennent de partout dans le monde participer à Ironman. Ils ont déjà le numéro décrit sur leur cuisse. Là.
C'est des gens qui arrivent au pic de leur shape. Là. Ils ont tout organisé dans les derniers mois pour arriver à leur summum à cette date précise.
Ouais, en way, le start.
Fait que, tu sais, les gars sont prêts, là. Les gars pis les filles, ils ont leur soute, là, tu sais, l'espèce de One Piece de triathlon, là, qui va dans l'eau avec laquelle tu cours, pis t'as pas l'air le fun, mais au moins, tu peux faire du basic, pis ils sont prêts. Pis là, ils leur disent, le Ironman est annulé. On cancelle. 42 degrés, c'est trop chaud. On n'a pas d'autre solution. C'est long, hein, Ironman, quand même qu'on vous ferait partir plus tôt. Vous allez quand même crever, donc on le fait pas. Mais là, tout le monde est prêt, là. Tout le monde est là, sont prêts, eux autres, à aller faire le Ironman. Voyons, on le fait pas. Je veux dire, mon cadenas est sur ma case. Mon linge civil est dedans. J'ai le dossard.
Java est en.
Pourquoi ils ont attendu jusqu'à ce moment-là?
Je suis prêt à faire l'Ironman. Donc, ce que la grande majorité des gens qui étaient inscrits à l'Ironman ont décidé de faire,
ils ont fait pareil.
C'est de le faire pareil.
Mais oui.
Sont-ils morts?
Oui, il y a un gars qui est mort.
Oh, ça, c'est moins nice, par contre. Là.
Mais il est pas mort de chaleur, là.
Ben.
Non?
Crise cardiaque.
Trop de Ricard.
Il s'est fait frapper par un char.
Parce que... C'est pas drôle. C'est pas drôle.
Parce que les organisateurs se sont dit, ben comme on a annulé l'Ironman...
On annule la sécurité.
On annule la sécurité.
OK, ça, c'est drôle, par contre. Ils sont bien perdus.
Fait que tous les chemins, le parcours sur lequel il devait avoir aucun véhicule, c'était rempli de trafic.
Ben voyons!
Rempli de trafic.
Et pas de bénévole pour calmer le pompon.
Zéro bénévole, zéro station d'hydratation, rien. La majorité l'ont fait. Il y a eu un mort. Là, c'est un gars qui s'est fait frapper par un char. Donc, ça n'a rien à voir avec la température, ça n'a rien à voir avec la température du bitume, rien.
Il lui fallu tenir l'événement.
Mais je pense que oui. T'sais, rendu là, l'erreur a été de l'organisation. Ils ont entendu trop tardivement avant de l'annuler. Puis en plus, tu sais.
Ça crée un mouvement. Là. Ces athlètes-là sont pas à Nice en se disant on a un plan B, on fait les boutiques.
C'est là.
Non, c'est pas ça, 0-0-0. Il n'y a rien de pire que les triathlètes.
Ça fait trois jours qu'ils sont à Nice, ça fait trois jours qu'ils refusent de manger une fameuse salade niçoise.
Trop gras.
Parce que c'est trop gras. Ils mettent pas de crème dans l'espresso.
Trop gras.
Ben, parce que c'est trop gras. Ils se privent, eux autres, pour faire leur Ironman. Puis au final, il l'annule. On va le faire pareil. J'ai le goût de prendre une Cronenbourg à soir puis de le faire avec avec le sentiment du travail accompli. Ils ont fait leur Ironman pareil, puis il y en a un qui s'est fait frapper pour une cause qui n'ont pas respecté la sécurité. C'est complètement débile, cette histoire-là.
Mais stupide que la stupidité, mon Dan.
Voilà.
Mais en même temps, s'il l'arrête aussi près du lancement de la course, ils peuvent aussi le rattraper aussi près du lancement de la course, dans le sens où s'ils voient que le monde y va,
ben oui,
ils n'ont juste pas rétabli ce qui était prévu à base.
Il n'y a rien à comprendre. Puis Jérôme en a brièvement parlé, l'affaire du petit Louis, c'est... C'est malade, là. L'histoire du petit gars.
Le petit autiste qui s'est fait tabasser à mort.
Je veux dire, c'est drôle, là-bas, il n'y a personne qui chiale sur le fait que la vidéo a été publiée. Là. Mais il faut que ça soit publié, ce genre de vidéo-là. Il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui voit cette vidéo-là. La famille a demandé à ce que ce soit publié. On parle d'un petit gars qui s'est fait frapper à mort à coups de pied en face. Là. Puis il n'était pas mort quand ils ont fini. Ah non, je vous le dis, là, c'est...
Ah, puis c'est un guet-apens, hein? C'était prévu,
je sais.
C'était prémédité.
Et après ça, vous avez cinq gars qui se penchent, qui se mettent à genoux, puis qui font des selfies avec un gars pas mort, qui est en train de souffrir, qui est en train d'agoniser. Puis les gars, ils font des signes. Yes, sir! En se prenant un selfie. Cette histoire-là est folle, là.
On dit qu'il n'y a pas de motif racial dans l'attaque, mais quand tu regardes les attaquants, il n'y avait pas de blanc.
Ouais, ben, il y avait un blanc, ouais. Pis c'est celui qui était à genoux.
C'est ça.
Tu sais, c'est fascinant, cette histoire-là. Je vous le dis, c'est fascinant. Puis c'est la famille qui a demandé. Fait que là, venez pas dire, ouais, vous partagez pas la vidéo, vous passez à la famille. Tout ça. Non, c'est la famille qui l'a demandé. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu passes par-dessus ces affaires-là. Si tu veux que les affaires se règlent, il faut que le monde le voit.
Ça fait une couple d'affaires comme ça qui arrivent en Europe. Le Novak s'est fait poignarder par un Sink. Les policiers sont arrivés sur place puis ils ont dit que non, tu t'es pas fait poignarder, il est mort. C'est un peu l'équivalent du George Floyd, mais au Royaume-Uni. L'histoire du petit Louis, il y a beaucoup d'attaques avec des motifs raciaux, qu'on veuille le dire ou non, qui se produisent et qui commencent vraiment à être inquiétants pour les gens qui habitent en Europe présentement. D'ailleurs, on le voit, là, il y a beaucoup de mouvements
anti-immigration. Mais en Europe, oui,
dans beaucoup d'endroits en Europe, oui, Royaume-Uni, France.
Je suis d'accord, sauf que le sentiment où on a l'impression que la justice n'intervient pas est beaucoup plus français. En France, il y a quand même un semblant de justice ailleurs. En France, ils ont vraiment un problème.
Oui, mais il y a des zones à Paris où la police ne va plus.
Je sais.
Les cités, là, au bord du périphérique, la police ne va plus là.
Quand j'étais à la Belgique, on nous a même dit, il y a des certains. Tu sais, quand on est arrivé à Bruxelles, on nous disait, il y a des coins, si vous trouvez ça hasardeux, fiez-vous à votre feeling. Allez-y pas. Parce que ça se pourrait que si vous soyez mal pris, vous avez bien beau appeler la police, ils iront pas.
Même
c'est
en Belgique.
Fou, là, c'est des pays industrialisés.
Oh, la Belgique a changé beaucoup dans les 25 dernières années.
C'est fou. La Belgique, c'est hallucinant. Là. Je veux dire,
On parle beaucoup de la France, mais les gros problèmes belges, ils sont beaucoup plus, comment dire... En fait, c'est le bordel. La Belgique, présentement, est bordélique.
Je pense qu'il y aurait beaucoup plus à dire sur ce volet-là de l'actualité française que la Christine Météo. C'est my two cents, c'est point. 8h34, on revient dans Morin Live.
Morin. Petite pause. De retour dans un instant. Radio X.